Romain Rolland, Jean-Christophe, tome 6, Antoinette. Chapitre 1er. Les Jeannins étaient une de ces vieilles familles françaises qui, depuis des siècles, restent fixées au même coin de province et pures de tout alliage étranger. Il y en a encore plus qu'on ne croit en France, malgré tous les changements survenus dans la société. Il faut un bouleversement bien fort, où elles tiennent par tant de liens profonds qu'elles ignorent elles-mêmes. La raison n'est pour rien dans leur attachement, et l'intérêt pour peu. Quant au sentimentalisme érudit des souvenirs historiques, il ne compte que pour quelques littérateurs. Ce qui lie d'une étreinte invincible, c'est l'obscure et puissante sensation, commune aux plus grossiers et aux plus intelligents, d'être depuis des siècles un morceau de cette terre, de vivre de sa vie, de respirer son souffle, d'entendre battre son cœur contre le nôtre, comme deux êtres couchés dans le même lit, côte à côte, de saisir ces frissons imperceptibles, les mille nuances des heures, des saisons, des jours clairs ou voilés, la voix et le silence des choses. Et ce ne sont pas les pays les plus beaux, ni ceux où la vie est la plus douce, qui prennent le cœur davantage, mais ceux où la terre est le plus simple, le plus humble, près de l'homme, et lui parle une langue intime et familière. Telle la province du centre de la France, où vivaient les Jeannins. Pays plat et humide, vieille petite ville endormie, qui mire son visage ennuyé dans l'eau trouble d'un canal immobile. Autour, champs monotones, terres labourées, prairies, petits cours d'eau, grands bois, champs monotones. Nul site, nul monument, nul souvenir. Rien n'est fait pour attirer. Tout est fait pour retenir. Il y a dans cette torpeur et cet engourdissement une secrète force. L'esprit qui les goûte pour la première fois en souffre et se révolte. Mais celui qui, depuis des générations, en a subi l'empreinte, ne saurait plus s'en déprendre. Il en est pénétré. Cette immobilité des choses, cet ennui harmonieux, cette monotonie ont un charme pour lui, une douceur profonde dont il ne se rend pas compte, qu'il dénigre, qu'il aime, qu'il ne saurait oublier. Dans ce pays, les Jeannins avaient toujours vécu. On pouvait suivre les traces de la famille jusqu'au XVIe siècle, dans la ville et aux environs. Car il y avait naturellement un grand-oncle dont la vie fut consacrée à dresser la généalogie de cette lignée d'obscures et laborieuses petites gens, paysans, fermiers, artisans de village, puis clercs, notaires de campagne, venus enfin s'installer dans la sous-préfecture de l'arrondissement, où Augustin Jeannin, le père du Jeannin actuel, avait fort adroitement fait ses affaires comme banquier. Habile homme, rusé et tenace comme un paysan, au demeurant honnête, mais sans scrupule exagéré, grand travailleur et bon vivant, qui s'était fait considérer et redouter à 10 lieues à la ronde par sa malicieuse bonhomie, son franc-parler et sa fortune. Courtaud, ramassé, vigoureux, avec de petits yeux vifs dans une grosse figure rouge, marqué de la petite vérole, il avait fait parler de lui jadis comme coureur de cotillons. Et il n'avait pas tout à fait perdu ce goût. Il aimait les gauloiseries et les bons repas. Il fallait le voir à table où son fils, Antoine, lui tenait tête, avec quelques vieux amis de leur espèce. Le juge de paix, le notaire, l'archiprêtre de la cathédrale. Le vieux Jeannin mangeait volontiers du prêtre, mais il savait aussi manger avec le prêtre quand le prêtre mangeait bien. De solides gaillards, bâtis sur le même modèle des pays rabelaisiens. C'était un feu roulant de plaisanteries énormes, des coups de poing sur la table, des hurlements de rire. Les convulsions de cette gaieté gagnaient les domestiques dans la cuisine et les voisins dans la rue. Puis le vieil Augustin avait pris une fluxion de poitrine un jour d'été très chaud qu'il s'était avisé de descendre dans sa cave en bras de chemise pour mettre son vin en bouteille. En 24 heures, il était parti pour l'autre monde, auquel il ne croyait guère, muni de tous les sacrements de l'Église, en bon bourgeois voltairien de province, qui se laisse faire au dernier moment pour que les femmes le laissent tranquille et parce que cela lui est bien égal. Et puis, on ne sait jamais. Son fils Antoine lui avait succédé dans ses affaires. C'était un petit homme gros, rubicond et épanoui, la face rasée, des favoris en côtelettes, une parole précipitée et bredouillante, qui faisait beaucoup de bruit et s'agitait avec de petits gestes vifs et courts. Il n'avait pas l'intelligence financière du père, mais il était assez bon administrateur. Il n'avait qu'à continuer tranquillement les entreprises commencées, qui allaient en s'agrandissant, par le seul fait de leur durée. Il bénéficiait dans le pays d'une réputation d'affaires, bien qu'il fût pour peu de choses dans leur succès. Il n'y apportait que de la régularité et de l'application. Parfaitement honorable, d'ailleurs, il inspirait partout une estime méritée. Ses manières affables, toutes rondes, un peu trop familières peut-être pour certains, un peu trop expansives, un peu peuple, lui avaient acquis dans sa petite ville et dans les campagnes alentour une popularité de bon aloi. Sans être prodigue de son argent, il l'était de sa sensibilité. Il avait facilement la larme à l'œil, et le spectacle d'une misère l'émouvait sincèrement, d'une façon qui ne manquait pas de toucher la victime. Comme la plupart des hommes de la petite ville, la politique tenait une grande place dans sa pensée. Il était républicain ardemment modéré, libéral avec intolérance, patriote et, à l'exemple de son père, extrêmement anticlérical. Il faisait partie du conseil municipal, et un plaisir pour lui, comme pour ses collègues, était de jouer quelques bons tours au curé de la paroisse ou au prédicateur du carême, qui excitait tant d'enthousiasme parmi les dames de la ville. Il ne faut pas oublier que cet anticléricalisme des petites villes françaises est toujours, plus ou moins, un épisode de la guerre des ménages. Une forme sournoise de cette lutte sourde et âpre entre maris et femmes qui se retrouve dans presque toutes les maisons. Antoine Janin avait aussi des prétentions littéraires. Comme les provinciaux de sa génération, il était nourri de classiques latins dont il savait par cœur quelques pages et une quantité de proverbes, de La Fontaine, de Boileau, le Boileau de l'art poétique et surtout du Lutrin, de l'auteur de La Pucelle et des Poetes Minores du XVIIIe siècle français, dans le goût desquels il s'efforçait de rimer. Il n'était pas le seul dans son cercle de connaissances qui eut cette manie, et elle ajoutait à sa réputation. On se répétait de lui des facéties en vers, des quatrains, des bouts rimés, des acrostiches, des épigrammes et des chansons, parfois assez risquées, qui ne manquaient pas d'un certain esprit bien en chair. Les mystères de la digestion n'y étaient pas oubliés. La muse des pays de Loire embouche volontiers sa trompette à la façon du diable fameux de Dante. Et egli avea del cul fatto trombetta. Ce petit homme robuste, jovial et actif avait pris femme d'un tout autre caractère. La fille d'un magistrat du pays, Lucie de Villiers. Les deux Villiers, ou plutôt de Villiers, car leur nom s'était scindé en cours de route, comme un caillou qui se fend en deux en dévalant, étaient des magistrats de père en fils, de cette vieille race parlementaire française qui avait une haute idée de la loi, du devoir, des convenances sociales, de la dignité personnelle et surtout professionnelle, fortifiée par une honnêteté parfaite avec une nuance prud'homesque. Au siècle précédent, ils avaient été frottés de jansénisme frondeur, et il leur en était resté, en même temps que le mépris de l'esprit jésuite, quelque chose de pessimiste et d'un peu grognon. Ils ne voyaient pas la vie en beau, et loin d'aplanir les difficultés qu'elle présentait, ils en eussent ajouté plutôt pour avoir le droit de se plaindre. Lucie de Villiers avait quelques-uns de ses traits qui s'opposaient à l'optimisme pas très raffiné de son mari. Grande, plus grande que lui de toute la tête, maigre, bien faite, sachant s'habiller, mais d'une élégance un peu compassée, qui la faisait toujours paraître, comme à dessein, plus âgée qu'elle n'était, elle avait une très haute valeur morale. Mais elle était sévère pour les autres. Elle n'admettait aucune faute, ni presque aucun travers. Elle passait pour froide et dédaigneuse. Elle était très pieuse, et c'était une occasion d'éternelle discussion entre époux. D'ailleurs, ils s'aimaient beaucoup, et tout en se disputant, ils n'auraient pu se passer l'un de l'autre. Ils n'étaient pas beaucoup plus pratiques l'un que l'autre. Lui, par manque de psychologie, il risquait toujours d'être la dupe des bonnes figures et des belles paroles. Elle, par inexpérience totale des affaires. En ayant toujours été tenue à l'écart, elle ne s'y intéressait point. Ils avaient deux enfants, une fille, Antoinette, qui était l'aînée de 5 ans, et un garçon, Olivier. Antoinette était une jolie brunette qui avait une gracieuse et honnête petite figure à la française, ronde, avec des yeux vifs, le front bombé, le menton fin, un petit nez droit. Un de ces nez fins et nobles au plus joli, comme dit gentiment un vieux portraitiste français, et dans lequel il se passait certains petits jeux imperceptibles qui animaient la physionomie et indiquaient la finesse des mouvements qui se faisaient au-dedans d'elle à mesure qu'elle parlait ou qu'elle écoutait. Elle tenait de son père la gaieté et l'insouciance. Olivier était un blondin délicat, de petite taille, comme son père, mais de nature tout autre. Sa santé avait été gravement éprouvée par des maladies continuelles pendant son enfance. Et bien qu'il en eût été d'autant plus choyé par tous les siens, sa faiblesse physique l'avait rendu de bonne heure un petit garçon mélancolique, rêvasseur, qui avait peur de la mort et qui était très mal armé pour la vie. Il restait seul par sauvagerie et par goût. Il fuyait la société des autres enfants. Il y était mal à l'aise. Il répugnait à leur jeu, à leur bataille. Leur brutalité lui faisait horreur. Il se laissait battre par eux, non par manque de courage, mais par timidité, parce qu'il avait peur de se défendre, de faire du mal. Il eût été martyrisé par ses camarades s'il n'eût été protégé par la situation de son père. Il était tendre et d'une sensibilité maladive. Un mot, une marque de sympathie, un reproche, le faisait fondre en larmes. Sa sœur, beaucoup plus saine, se moquait de lui et l'appelait Petite Fontaine. Les deux enfants s'aimaient de tout cœur, mais ils étaient trop différents pour vivre ensemble. Chacun allait de son côté et poursuivait ses chimères. À mesure qu'Antoinette grandissait, elle devenait plus jolie. On le lui disait et elle le savait. Elle en était heureuse, elle se forgeait des romans pour l'avenir. Olivier, malingre et triste, se sentait constamment froissé par tous ses contacts avec le monde extérieur. Et il se réfugiait dans son absurde petit cerveau. Il se contait des histoires. Il avait un besoin ardent et féminin d'aimer et d'être aimé. Et, vivant seul, en dehors de tous ceux de son âge, il s'était fait deux ou trois amis imaginaires. L'un s'appelait Jean, l'autre Étienne, l'autre François. Il était toujours avec eux. Aussi n'était-il jamais avec ceux qui l'entouraient. Il ne dormait pas beaucoup et rêvassait sans cesse. Le matin, quand on l'avait arraché de son lit, il s'oubliait, ses deux petites jambes nues pendant hors de son lit, ou bien souvent, deux bas enfilés sur la même jambe. Il s'oubliait, ses deux mains dans sa cuvette. Il s'oubliait à sa table de travail, en écrivant une ligne, en apprenant sa leçon. Il rêvait pendant des heures. Et après, il s'apercevait soudain avec terreur qu'il n'avait rien appris. À dîner, il était ahuri quand on lui adressait la parole. Il répondait 2 minutes après qu'on l'avait interrogé. Il ne savait plus ce qu'il voulait dire au milieu de sa phrase. Il s'engourdissait dans le murmure de sa pensée et dans les sensations familières des jours de province monotones qui s'écoulaient avec lenteur. La grande maison à moitié vide, dont on n'habitait qu'une partie, les caves et les greniers immenses et redoutables, les chambres mystérieusement closes, volets fermés, meubles vêtus de housse, glaces voilées, flambeaux enveloppés, les vieux portraits de famille au sourire obsédant, les gravures en pire d'un héroïsme vertueux et polisson, Alcibiade et Socrate chez la courtisane, Antiochus et Stratonis, l'histoire d'Épaminondas, Bélisaire mendiant. Au dehors, le bruit du maréchal Ferrand dans la forge d'en face, la danse boiteuse des marteaux sur l'enclume, le halètement du soufflet poussif, l'odeur de la corne grillée, les battoirs des laveuses accroupies au bord de l'eau, les coups sourds du couperet du boucher dans la maison voisine, le pas d'un cheval sonnant sur le pavé de la rue, le grincement d'une pompe, le pont tournant sur le canal, les lourds bateaux chargés de piles de bois, lentement défilant, allait au bout d'une corde, devant le jardin suspendu. La petite cour dallée, avec un carré de terre où poussaient 2 lilas, au milieu d'un massif de géraniums et de pétunias. Les caisses de lauriers et de grenadiers en fleurs sur la terrasse au-dessus du canal. Parfois, le vacarme d'une foire sur la place voisine. Les paysans en blouse bleue luisante et les cochons braillant. et le dimanche à l'église, le chantre qui chantait faux, le vieux curé qui s'endormait en disant la messe, la promenade en famille sur l'avenue de la gare, où l'on passait son temps à échanger des coups de chapeau cérémonieux avec d'autres malheureux qui se croyaient également obligés à se promener ensemble, jusqu'à ce qu'enfin on arrivât dans les champs ensoleillés, au-dessus desquels, invisibles, se balançaient les alouettes, ou le long du canal miroitant et mort, des deux côtés duquel les peupliers alignés frissonnaient. Et puis, c'étaient les grands dîners, les mangeries interminables, où l'on parlait de mangeailles, avec science et volupté, car il n'y avait là que des connaisseurs. Et la gourmandise est, en province, la grande occupation, l'art par excellence. Et l'on parlait aussi d'affaires, et de gauloiseries, et ça et là, de maladies, avec des détails sans fin. Et le petit garçon, assis dans son coin, ne faisait pas plus de bruit qu'une petite souris, grignotait, ne mangeait guère, et écoutait de toutes ses oreilles. Rien ne lui échappait. Ce qu'il entendait mal, son imagination y suppléait. Il avait ce don singulier qu'on observe souvent chez les enfants des vieilles familles, où l'empreinte des siècles est trop fortement marquée, de deviner des pensées qu'il n'avait jamais eues encore et qu'il comprenait à peine. Il y avait aussi la cuisine, où s'élaboraient des mystères sanglants et succulents, et la vieille bonne qui racontait des contes burlesques et effrayants. Enfin, c'était, le soir, le vol silencieux des chauves-souris, la terreur des vies monstrueuses que l'on savait grouiller dans les entrailles de la vieille maison, les gros rats, les araignées énormes et velues, la prière au pied du lit, où l'on n'écoutait guère ce que l'on disait, la petite cloche saccadée de l'hospice voisin qui sonnait le coucher des religieuses, le lit blanc, l'île des rêves. Les meilleurs moments de l'année étaient ceux que l'on passait dans une propriété de famille, à quelques lieues de la ville, au printemps et à l'automne. Là, on pouvait rêver tout à son aise, on ne voyait personne. Comme la plupart des petits bourgeois, les deux enfants étaient tenus à l'écart des gens du peuple, domestiques, fermiers, qui leur inspiraient au fond un peu de crainte et de dégoût. Ils tenaient de leur mère un dédain aristocratique, ou plutôt essentiellement bourgeois, pour les travailleurs manuels. Olivier passait les journées perché dans les branches d'un frêne et lisant des histoires merveilleuses, la délicieuse mythologie, les contes de Muséus ou de Madame d'Aulnoy, ou les Mille et une nuits, ou des romans de voyage, car il avait cette étrange nostalgie des terres lointaines, ces rêves océaniques, qui tourmentent parfois les jeunes garçons des petites villes de province française. Un fourré lui cachait la maison, et il pouvait se croire très loin, mais il se savait tout près, et il en était bien aise, car il n'aimait pas trop à s'éloigner tout seul. Il se sentait perdu dans la nature. Les arbres houlaient autour. À travers le nid de feuillage, il voyait au loin les vignes jaunissantes, les prairies où paissaient les vaches bigarrées, dont les meuglements lents remplissaient le silence de la campagne assoupie. Les coqs à la voix perçante se répondaient d'une ferme à l'autre. On entendait le rythme inégal des fléaux dans les granges. Dans cette paix des choses, la vie fiévreuse des myriades d'êtres coulait à plein bord. Olivier surveillait d'un œil inquiet les colonnes des fourmis perpétuellement pressées et les abeilles lourdes de butin qui ronflent comme des tuyaux d'orgue et les guêpes superbes et stupides qui ne savent ce qu'elles veulent. Tout ce monde de bêtes affairées qui semble dévoré du désir d'arriver quelque part. Où cela, elle l'ignore. N'importe où, quelque part. Olivier avait un frisson au milieu de cet univers aveugle et ennemi. Il tressaillait comme un levreau au bruit d'une pomme de pin qui tombait ou d'une branche sèche qui se cassait. Il se rassurait en entendant à l'autre bout du jardin tinter les anneaux de la balançoire où Antoinette se berçait avec rage. Elle rêvait aussi, mais c'était à sa façon. Elle passait la journée à fureter dans le jardin, gourmande, curieuse et rieuse, picorant les raisins des vignes comme une grive, détachant en cachette une pêche de l'espalier, grimpant sur un prunier, ou lui donnant en passant de petites tapes sournoises pour faire tomber la pluie des mirabelles d'or qui fondent dans la bouche comme un miel parfumé. Ou elle cueillait des fleurs, bien que ce fût défendu. Vite, elle arrachait une rose qu'elle convoitait depuis le matin et elle se sauvait avec dans la charmille au fond du jardin. Alors elle enfouissait son petit nez voluptueusement dans la fleur enivrante, elle la baisait, la mordait, la suçait. Et puis elle cachait son larcin, elle l'enfonçait dans son cou, contre sa gorge, entre ses deux petits seins, qu'elle regardait curieusement se gonfler sous sa chemisette entrebâillée. Une volupté aussi, exquise et défendue, était d'enlever ses chaussures et ses bas, et de s'en aller pieds nus sur le sablon frais des allées, et sur l'herbe mouillée des pelouses, et sur les pierres glacées d'ombre ou brûlantes de soleil, et dans le petit ruisseau qui coulait à la lisière du bois, de baiser avec ses pieds, ses jambes, ses genoux, l'eau, la terre et la lumière. Couchée à l'ombre des sapins, elle regardait ses mains transparentes au soleil, et elle promenait machinalement ses lèvres sur le tissu satiné de ses bras fins et dodus. Elle se faisait des couronnes, des colliers, des robes de feuilles de lierre et de feuilles de chêne. Elle y piquait des chardons bleus et de la rouge épine vinette et de petites branches de sapin avec leurs fruits verts. Elle avait l'air d'une petite princesse barbare. Et elle dansait toute seule autour du jet d'eau. Et, les bras étendus, elle tournait, jusqu'à ce que la tête lui tournât, et qu'elle se laissa choir sur la pelouse, la figure enfouie dans l'herbe et riant aux éclats, pendant plusieurs minutes, sans pouvoir s'arrêter et sans savoir pourquoi. Ainsi coulaient les jours des deux enfants, à quelques pas l'un de l'autre, sans s'occuper l'un de l'autre. Sauf lorsqu'Antoinette s'avisait, en passant, de jouer une niche à son frère, de lui lancer au nez une poignée d'aiguilles de pin, ou de secouer son arbre, en menaçant de le faire tomber, ou de lui faire peur en se lançant sur lui et criant brusquement « Ouh ! Ouh !» Elle était prise parfois d'une fureur de le taquiner. Elle le faisait descendre de son arbre en prétendant que sa mère l'appelait. Puis, quand il était descendu, elle montait à sa place et n'en voulait plus bouger. Alors Olivier geignait et menaçait de se plaindre. Mais il n'y avait pas de danger qu'Antoinette s'éternisa sur l'arbre. Elle ne pouvait rester 2 minutes en repos. Quand elle s'était bien moquée d'Olivier, du haut de la branche, quand elle l'avait fait enrager à son aise, et qu'il était prêt de pleurer, elle dégringolait en bas, se jetait sur lui, le secouait en riant, l'appelait « petit serin » et le roulait par terre en lui frottant le nez avec des poignées d'herbe. Il essayait de lutter, mais il n'était pas de force. Alors il ne bougeait plus, couché sur le dos, comme un hanneton, ses bras maigres cloués sur le gazon par les robustes menottes d'Antoinette. Et il prenait un air lamentable et résigné. Antoinette n'y résistait pas. Elle le regardait vaincu et soumis. Elle éclatait de rire, l'embrassait brusquement, et elle le laissait, non sans lui avoir, en guise d'adieu, enfoncé un petit tapon d'herbe fraîche dans la bouche, ce qu'il détestait par-dessus tout, parce qu'il était extrêmement dégoûté. Et il crachait, il s'essuyait la bouche, il protestait avec indignation, tandis qu'elle se sauvait à toutes jambes en riant. Elle riait toujours. La nuit, dans son sommeil, elle riait encore. Olivier, couché dans la chambre voisine et qui ne dormait point, sursautait au milieu des histoires qu'il se contait, en entendant ses fous rires et les paroles entrecoupées qu'elle disait dans le silence de la nuit. Dehors, les arbres craquaient sous le souffle du vent, une chouette pleurait, les chiens hurlaient dans les villages, au loin, et dans les fermes au fond des bois. Dans l'indécise phosphorescence de la nuit, Olivier voyait se mouvoir devant sa fenêtre, comme des spectres, des branches lourdes et sombres de sapin, et le rire d'Antoinette lui était un allègement. Les deux enfants étaient très religieux, surtout Olivier, leur père les scandalisait par ses professions de foi anticléricales. Mais il les laissait libres, et au fond, comme tant de bourgeois qui ne croient pas, il n'était pas fâché que les siens crussent pour lui, car il est toujours bon d'avoir des alliés dans l'autre camp. On n'est jamais sûr de quel côté tournera la chance. En somme, il était déiste, et il se réservait, le moment venu, de faire venir un curé comme avait fait son père. Si cela ne fait pas de bien, cela ne peut pas faire de mal. On n'a pas besoin de croire qu'on sera brûlé pour prendre une assurance contre l'incendie. Olivier, maladif, avait une inclinaison au mysticisme. Il lui semblait parfois ne plus exister. Crédule et tendre, il avait besoin d'un appui. il goûtait dans la confession une jouissance douloureuse, le bienfait de se confier à l'invisible ami, dont les bras vous sont toujours ouverts, à qui on peut tout dire, qui comprend et qui excuse tout. Il savourait la douceur de ce bain d'humilité et d'amour, d'où l'âme sort toute pure, lavée et reposée. Il lui était si naturel de croire qu'il ne comprenait pas comment on pouvait douter. Il pensait qu'on y mettait de la méchanceté, ou que Dieu vous punissait. Il faisait des prières en cachette pour que son père fût touché de la grâce. Et il eut une grande joie, un jour que, visitant avec lui une église de campagne, il le vit faire un signe de croix. Les récits de l'histoire sainte s'étaient mêlés en lui aux merveilleuses histoires de Rubezahl, de Gracieuse et Percinet, et du calife Haroun al-Rachid. Quand il était petit, il ne doutait pas plus de la vérité des unes que des autres. Et de même qu'il n'était pas sûr de ne pas connaître Chakabak aux lèvres fendues, et le barbier Babillard, et le petit bossu de Kasgar, de même que lorsqu'il se promenait, il cherchait des yeux dans la campagne le pic noir qui porte dans son bec la racine magique du chercheur de trésors, Canaan et la terre promise devenaient, par la vertu de son imagination d'enfant, des localités bourguignonnes ou berrichonnes. Une colline du pays, toute ronde, avec un petit arbre au sommet comme un vieux plumet défraîchi, lui semblait la montagne où Abraham avait élevé le bûcher. Et un gros buisson mort, à la lisière des chaumes, était le buisson ardent que les siècles avaient éteint. Même quand il ne fut plus tout petit, et quand son sens critique commençait à s'éveiller, il aimait à se bercer encore des légendes populaires qui enguirlandent la foi. Et il y trouvait tant de plaisir que, sans être tout à fait dupe, il s'amusait à l'être. C'est ainsi que pendant longtemps, il guetta le samedi saint le retour des cloches de Pâques qui sont parties pour Rome le jeudi d'avant et qui reviennent dans les airs avec de petites banderoles. Il avait fini par se rendre compte que ce n'était pas vrai, mais il n'en continuait pas moins de lever le nez au ciel quand il les entendait sonner. Et une fois, il eut l'illusion, tout en sachant parfaitement que cela ne pouvait pas être, d'en voir une disparaître au-dessus de la maison avec des rubans bleus. Il avait un impérieux besoin de se baigner dans ce monde de légendes et de foi. Il fuyait la vie, il se fuyait lui-même. Maigre, pâle, chétif, il souffrait d'être ainsi. Il ne pouvait supporter de se l'entendre dire. Il portait en lui un pessimisme natif qui lui venait de sa mère sans doute, et qui avait trouvé un terrain favorable chez cet enfant maladif. Il n'en avait pas conscience, il croyait que tout le monde était comme lui. Et ce petit bonhomme de 10 ans, pendant ses récréations, au lieu de jouer dans le jardin, s'enfermait dans sa chambre et, en grignotant son goûter, il écrivait son testament. Il écrivait beaucoup. Il s'acharnait à écrire son journal chaque soir en cachette. Il ne savait pourquoi, car il n'avait rien à dire que des niaiseries. Écrire était chez lui une manie héréditaire, ce besoin séculaire du bourgeois de province française, la vieille race indestructible, qui, chaque jour, écrit pour soi, jusqu'au jour de sa mort, avec une patience idiote et presque héroïque, les notes détaillées de ce qu'il a, chaque jour, vu, dit, fait, entendu, bu, pensé et mangé. Pour soi, pour personne autre. Personne ne le lira jamais, il le sait, et lui-même ne se relit jamais. La musique lui était, comme la foi, un abri contre la lumière trop vive du jour. Tous deux, le frère et la sœur, étaient musiciens de cœur, surtout Olivier qui tenait ce don de sa mère. Au reste, il s'en fallait que leur goût fût excellent. Personne n'eût été capable de le former dans cette province où l'on n'entendait, en fait de musique, que la fanfare locale qui jouait des pas redoublés, ou, dans ses bons jours, des pot-pourris d'Adolphe Adam, l'orgue de l'église qui exécutait des romances, et les exercices de piano des demoiselles de la bourgeoisie qui tapotaient sur des instruments mal accordés quelques valses et polkas, l'ouverture du calife de Bagdad ou de la chasse du jeune Henri, et 2 ou 3 sonates de Mozart, toujours les mêmes, et toujours avec les mêmes fausses notes. Cela faisait partie du programme invariable des soirées quand on recevait du monde. Après dîner, ceux qui avaient des talents étaient priés de les faire valoir. Ils refusaient d'abord, en rougissant, puis finissaient par céder aux instances de l'assemblée. Et ils exécutaient leurs grands morceaux par cœur. Chacun admirait alors la mémoire de l'artiste et son jeu perlé. Cette cérémonie, qui se renouvelait presque à chaque soirée, gâtait pour les deux enfants tout le plaisir du dîner. Encore, quand ils avaient à jouer à quatre mains leur voyage en Chine de Bazin, ou leur petit morceau de Weber, ils étaient sûrs l'un de l'autre, ils n'avaient pas trop peur. Mais quand il fallait jouer seul, c'était un supplice. Antoinette, comme toujours, était la plus brave. Cela l'ennuyait mortellement, et comme elle savait qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper, elle en prenait son parti, allait s'asseoir au piano, d'un petit air décidé, et galopait son rondeau à la diable, redouillant des passages, à d'autres pataugeant, s'interrompant, tournant la tête, disant avec un sourire « Ah, je ne me souviens plus !» puis reprenant bravement quelques mesures plus loin et allant jusqu'au bout. Après, elle ne cachait pas son contentement d'avoir fini, et quand elle revenait à sa place au milieu des compliments, elle riait en disant « J'en ai fait des fausses notes !» Mais Olivier était d'humeur moins facile. Il ne pouvait supporter de s'exhiber en public, d'être le point de mire de toute une société. C'était déjà pour lui une souffrance de parler, quand il y avait du monde. Jouer, surtout pour des gens qui n'aimaient pas la musique, il le voyait très bien, que la musique ennuyait même, et qui vous faisait jouer seulement par habitude, lui semblait une tyrannie, contre laquelle il tentait de s'insurger en vain. Il refusait obstinément. Certains soirs, il se sauvait. Il allait se cacher dans une chambre noire, dans le corridor, et jusqu'au grenier, malgré sa peur des araignées. Sa résistance rendait les insistances plus vives et plus narquoises. Les objurgations des parents s'y mêlaient, agrémentées de quelques claques, quand l'esprit de révolte soufflait trop impertinemment. Et il devait toujours finir par jouer, naturellement en dépit du bon sens. Ensuite, il souffrait, la nuit, d'avoir mal joué parce qu'il aimait vraiment la musique. Le goût de la petite ville n'avait pas toujours été aussi médiocre. On se souvenait d'un temps où l'on faisait d'assez bonne musique de chambre chez deux ou trois bourgeois. Madame Jeannin parlait souvent de son grand-père, qui raclait du violoncelle avec passion et qui chantait des airs de Gluck, de Dalayrac et de Berton. Il y en avait encore un gros cahier à la maison, ainsi qu'une liasse d'airs italiens. Car l'aimable vieillard était comme M. Andrieux, dont Berlioz disait « Il aimait bien Gluck ». Et il ajoutait avec amertume « Il aimait bien aussi Pincini ». Peut-être aimait-il mieux Pincini. En tout cas, les airs italiens l'emportaient de beaucoup en nombre dans la collection du grand-père. Il avait été le pain musical du petit Olivier, nourriture peu substantielle et un peu analogue aux sucreries de province dont on bourre les enfants. Elles affadissent le goût, démolissent l'estomac et risquent d'enlever pour toujours l'appétit pour des aliments plus sérieux. Mais la gourmandise d'Olivier ne pouvait être mise en cause. D'aliments plus sérieux, on ne lui en offrait pas. Il n'avait pas de pain, il mangeait du gâteau. C'est ainsi que par la force des choses, Cimarosa, Paisiello et Rossini devinrent les nourriciers de ce petit garçon mélancolique et mystique dont la tête tournait un peu en buvant l'astis pomante que lui servait au lieu de lait, ses pères Silène, Hilar et Effronté, et les deux petites bacchantes sautillantes de Naples et de Catane, au sourire ingénu et lascif, avec une jolie larme dans les yeux, Pergolèse et Bellini. Il jouait beaucoup de musique, tout seul, pour son plaisir. Il en était imprégné. Il ne cherchait pas à comprendre ce qu'il jouait, il en jouissait passivement. Personne ne songeait à lui faire apprendre l'harmonie, et lui-même ne s'en souciait pas. Tout ce qui était science et esprit scientifique était étranger à la famille, surtout du côté maternel. Ces hommes de loi, beaux esprits et humanistes, étaient perdus devant un problème. On citait comme un phénomène un membre de la famille, un cousin éloigné, qui était entré au bureau des longitudes. Encore disait-on qu'il en était devenu fou. La vieille bourgeoisie de province, d'esprit robuste et positif, mais assoupie par ses longues digestions et la monotonie des jours, est pleine de son bon sens. Elle a une telle foi en lui qu'elle se fait fort de ne trouver aucune difficulté qu'il ne soit suffisante à résoudre. Et elle n'est pas loin de considérer les hommes de science comme des espèces d'artistes, plus utiles que les autres, mais moins relevés, parce que du moins les artistes ne servent à rien. Et cette fainéantise ne manque pas de distinction. au lieu que les savants sont presque des ouvriers manuels, ce qui est déshonorant, des contremaîtres plus instruits et un peu toqués. Très forts sur le papier, mais sortis de leur usine à chiffres, il n'y a plus personne. Ils n'iraient pas loin s'ils n'avaient pour les diriger des gens de bon sens qui possèdent l'expérience de la vie et des affaires. Le malheur est qu'il n'est pas prouvé que cette expérience de la vie et des affaires soit aussi ferme que ces gens de bon sens voudraient se le faire accroire. C'est bien plutôt une routine limitée à un très petit nombre de cas très faciles. Que survienne un cas imprévu où il faut prendre parti promptement et vigoureusement, les voilà désarmés. Le banquier Jeannin était de cette espèce. Tout était si bien prévu d'avance, tout se répétait si exactement dans le rythme de la vie de province, qu'il n'avait jamais rencontré de difficultés sérieuses dans ses affaires. Il avait pris la succession de son père sans aptitude spéciale pour ce métier. Puisque tout avait bien marché depuis, il en faisait honneur à ses lumières naturelles. Il aimait à dire qu'il suffisait d'être honnête, appliqué et d'avoir du bon sens. Et il pensait transmettre sa charge à son fils sans plus s'inquiéter des goûts de celui-ci que son père n'avait fait pour lui-même. Il ne l'y préparait point. Il laissait ses enfants pousser à leur gré, pourvu qu'ils fussent de braves petits et surtout qu'ils fussent heureux, car il les adorait. Aussi était-il aussi mal préparé que possible à la lutte pour la vie, fleur de serre. Mais ne devait-il pas toujours vivre ainsi? Dans leur molle province, dans leur famille riche, considérée, avec un père aimable, gai, cordial, entouré d'amis, jouissant d'une des premières situations du pays, la vie était si facile et riante. Antoinette avait 16 ans. Olivier allait faire sa première communion. Il s'engourdissait dans le bourdonnement de ses rêves mystiques. Antoinette écoutait chanter le voluptueux ramage de l'espérance enivrée qui, comme le rossignol d'avril, remplit les cœurs printaniers. Elle jouissait de sentir son corps et son âme fleurissant, de se savoir jolie et de se l'entendre dire. Les éloges de son père, ses paroles imprudentes eussent suffi à lui tourner la tête. Il était en extase devant elle. Il s'amusait de sa coquetterie, de ses œillades langoureuses à son miroir, de ses roueries innocentes et malignes. Il la prenait sur ses genoux, il la taquinait au sujet de son petit cœur, des conquêtes qu'elle faisait, des demandes en mariage qu'il prétendait avoir reçues pour elle. Il les énumérait, des bourgeois respectables, tous plus vieux et plus laids les uns que les autres. Elle se récriait d'horreur, avec des éclats de rire, les bras passés autour du cou de son père, la figure blottie contre sa joue. Et il lui demandait quel serait l'heureux élu, si c'était monsieur le procureur de la République, dont la vieille bonne des Jeannin disait qu'il était laid comme les 7 péchés capitaux, ou bien le gros notaire. Elle lui donnait de petites tapes pour le faire taire, ou lui fermait la bouche avec ses mains. Il baisait les menottes et chantait, en la faisant sauter sur ses genoux, la chanson connue « Que voulez-vous, la belle, est-ce un mari bien laid ?» Elle répondait en pouffant et lui nouant les favoris sous le menton par le refrain « Plutôt joli que laid, madame, s'il vous plaît. » Elle entendait bien faire son choix elle-même. Elle savait qu'elle était ou qu'elle serait riche. Son père le lui répétait sur tous les tons. Elle était un beau parti. Les familles distinguées du pays, qui avaient des fils, la courtisaient déjà, disposant autour d'elle un réseau de petites flatteries et de ruses savantes, cousues de fil blanc, pour prendre le joli poisson d'argent. Mais le poisson risquait fort d'être pour eux un poisson d'avril, car la fine Antoinette ne perdait rien de leur manège, et elle s'en amusait. Elle voulait bien se faire prendre, mais elle ne voulait pas qu'on la prît. Dans sa petite tête, elle avait déjà décidé qui elle épouserait. La famille noble du pays, il n'y en a généralement qu'une par pays, elle se prétend issue des anciens seigneurs de la province, et elle descend, le plus souvent, de quelque acheteur de biens nationaux, intendant du XVIIIe siècle, ce fournisseur des armées de Napoléon. Les Bonnivet, qui avaient, à 2 lieues de la ville, un château avec des tours pointues aux ardoises amusantes, au milieu des grands bois, semés d'étangs poissonneux, faisaient des avances aux Jeannin. Le jeune Bonnivet était empressé auprès d'Antoinette. Beau garçon, assez fort et corpulent pour son âge, il ne faisait toute sa sainte journée que chasser, manger, boire et dormir. Il montait à cheval, savait danser, avait d'assez bonnes manières, et n'était pas beaucoup plus bête qu'un autre. Il venait de temps en temps du château à la ville, tout botté, à cheval ou dans son tape-cul. Il faisait visite au banquier sous prétexte d'affaires, et parfois il apportait une bourriche de gibier ou un gros bouquet de fleurs pour ses dames. Il en profitait pour faire la cour à mademoiselle. Il se promenait dans le jardin. Il lui faisait les compliments gros comme le bras, et badinait agréablement en frisant sa moustache et faisant sonner ses éperons sur les dalles de la terrasse. Antoinette le trouvait charmant. Son orgueil et son cœur étaient délicieusement caressés. Elle s'abandonnait à ses premières heures si douces d'amour enfantin. Olivier détestait le hobereau, parce qu'il était fort, lourd, brutal, qu'il riait d'un rire bruyant, qu'il avait des mains qui serraient comme des étaux, et une façon dédaigneuse de l'appeler toujours « petit » en lui pinçant la joue. Il le détestait surtout, sans le savoir, parce que cet étranger aimait sa sœur. Sa sœur, son bien à lui et à nul autre. Cependant, la catastrophe arrivait. Tôt ou tard, il en vient une dans la vie de ces vieilles familles bourgeoises qui, depuis des siècles, sont incrustées dans le même carré de terre et en ont épuisé tous les sucs. Elles sommeillent tranquillement et se croient aussi éternelles que le sol qui les porte. Mais le sol est mort sous elles et il n'y a plus de racines. Il suffit d'un coup de pioche pour tout arracher. Alors on parle de malchance, de malheur imprévu. Il n'y eut pas eu de malchance si l'arbre eût été plus résistant, ou du moins l'épreuve n'eût fait que passer comme une tourmente qui arrache quelques branches, mais n'ébranle point l'arbre. Le banquier Jeannin était faible, confiant, un peu vaniteux. Il aimait jeter de la poudre aux yeux et confondait volontiers être avec paraître. Il dépensait beaucoup, à tort et à travers, sans que ces gaspillages, à vrai dire, que les habitudes d'économie séculaire venaient modérer, par accès de remords, il dépensait un stère de bois et lésinait sur une allumette, vinssent sérieusement entamer son avoir. Il n'était pas non plus très prudent dans ses affaires. Il ne refusait jamais de prêter de l'argent à des amis. Et ce n'était pas bien difficile d'être de ses amis. Il ne prenait même pas toujours la peine de se faire donner un reçu. Il tenait un compte négligent de ce qu'on lui devait et qu'il ne réclamait guère si on ne le lui offrait point. Il comptait sur la bonne foi des autres comme il entendait qu'on comptât sur la sienne. Il était d'ailleurs plus timide que ne l'eussent laissé croire ses manières rondes et sans façon. Jamais il n'eût osé éconduire certains quémandeurs indiscrets ni manifester ses craintes au sujet de leur solvabilité. Il y mettait de la bonté et de la pusillanimité. Il ne voulait froisser personne et il craignait un affront. Alors il cédait toujours. Et pour se donner le change, il le faisait avec entrain, comme si c'était lui rendre service que prendre son argent. Il n'était pas loin de le croire. Son amour-propre et son optimisme lui persuadaient aisément que toute affaire qu'il faisait était une bonne affaire. Ses façons d'agir n'étaient pas pour lui aliéner les sympathies des emprunteurs. Il était adoré des paysans, qui savaient qu'il pouvait toujours avoir recours à son obligeance et qui ne s'en faisait point faute. Mais la reconnaissance des gens, voire des braves gens, est un fruit qu'il faut cueillir à temps. Si on le laisse vieillir sur l'arbre, il ne tarde pas à moisir. Quand quelques mois étaient passés, les obligés de M. Jeannin s'habituaient à penser que ce service leur était dû. Et même ils avaient un penchant à croire que, pour que M. Jeannin eût manifesté tant de plaisir à les aider, il fallait qu'il y eût trouvé son intérêt. Les plus délicats se croyaient quittes, sinon de la dette, au moins de la reconnaissance, avec un lièvre qu'ils avaient tué, ou un panier d'œufs de leur poulailler, qu'ils venaient offrir au banquier le jour de la foire du pays. Comme jusqu'à présent il ne s'était agi en définitive que de petites sommes, et que M. Jeannin n'avait eu affaire qu'à d'assaisonner de gens, il n'y avait pas eu grand inconvénient à cela. Les pertes d'argent, dont le banquier ne soufflait mot à qui que ce fût, étaient minimes. Mais ce fut autre chose, du jour où M. Jeannin se trouva sur le chemin d'un intrigant qui lançait une grande affaire industrielle et qui avait eu vent de la complaisance du banquier et de ses ressources financières. Ce personnage, aux manières importantes, qui était décoré de la Légion d'honneur et se disait l'ami de deux ou trois ministres, d'un archevêque, d'une collection de sénateurs, de notoriétés variées du monde des lettres ou de la finance et d'un journal omnipotent, sut merveilleusement prendre le ton autoritaire et familier qui convenait à son homme. À titre de recommandation, il exhibait, avec une grossièreté qui eût mis en éveil quelqu'un de plus fin que M. Janin, les lettres de compliments banales qu'il avait reçues de ses illustres connaissances pour le remercier d'une invitation à dîner ou pour l'inviter à leur tour. Car on sait que les Français ne sont jamais chiches de cette monnaie épistolaire, ni regardant à accepter la poignée de main et les dîners d'un individu qu'ils connaissent depuis une heure, pourvu seulement qu'il les amuse et qu'il ne leur demande point d'argent. Encore en est-il beaucoup qui ne le refuseraient pas à leur nouvel ami si d'autres faisaient le même. Et ce serait bien de la malchance pour un homme intelligent qui cherche à soulager son prochain de l'argent qui l'embarrasse s'il ne finissait par trouver un premier mouton qui consentit à sauter pour entraîner les autres. N'y eût-il pas eu d'autres moutons avant lui, M. Janin eût été celui-là. Il était de la bonne espèce portelaine qui est faite pour qu'on la tonde. Il fut séduit par les belles relations, par la faconde, par les flatteries de son visiteur, et aussi par les premiers bons résultats que donnèrent ses conseils. Il risqua peu d'abord, et avec succès. Alors il risqua beaucoup, et puis il risqua tout. Non seulement son argent, mais celui de ses clients. Il se gardait de les en aviser. Il était sûr de gagner. Il voulait éblouir par les services rendus. L'entreprise sombra. Il l'apprit d'une façon indirecte par un de ses correspondants parisiens, qui lui disait un mot en passant du nouveau crack, sans se douter que Janin était une des victimes. Car le banquier n'avait parlé de rien à personne. Avec une inconcevable légèreté, il avait négligé, évité, semblait-il, de prendre conseil auprès de ceux qui étaient capables de le renseigner. Il avait tout fait en secret, infatué de son infaillible bon sens, et il s'était contenté des plus vagues renseignements. Il y a de ces aberrations dans la vie. On dirait qu'à certains moments, il faille absolument qu'on se perde. Il semble qu'on ait peur que quelqu'un vous vienne en aide. On fuit tout conseil qui pourrait vous sauver, on se cache, on se hâte avec un empressement fébrile, afin de pouvoir faire le grand plongeon tout à son aise. M. Janin courut à la gare, et le cœur broyé d'angoisse, il prit le train pour Paris. Il allait à la recherche de son homme. Il se flattait encore de l'espoir que les nouvelles étaient fausses, ou du moins exagérées. Il ne trouva point l'homme, et il eut confirmation du désastre qui était complet. Il revint, affolé, cachant tout. Personne ne se doutait de rien encore. Il tâcha de gagner quelques semaines, quelques jours. Dans son incurable optimisme, il s'efforçait de croire qu'il trouverait un moyen de réparer, sinon ses pertes, celles qu'il avait fait subir à ses clients. Il essaya de divers expédients, avec une précipitation maladroite, qui lui eût enlevé toute chance de réussir, s'il en avait pu avoir. Les emprunts qu'il tenta lui furent partout refusés. Les spéculations hasardeuses, où, en désespoir de cause, il engagea le peu qui lui restait, achevèrent de le perdre. Dès lors, ce fut un changement complet dans son caractère. Il ne parlait de rien, mais il était aigri, violent, dur, horriblement triste. Encore, quand il était avec des étrangers, continuait-il à simuler la gaieté. Mais son trouble n'échappait à personne. On l'attribuait à sa santé. Avec les siens, il se surveillait moins, et ils avaient remarqué tout de suite qu'il cachait quelque chose de grave. Il n'était plus reconnaissable. Tantôt il faisait irruption dans une chambre, et il fouillait un meuble, jetant sur le parquet tous les papiers sans dessus-dessous, et se mettant dans des rages folles parce qu'il ne trouvait rien ou qu'on voulait l'aider. Puis il restait perdu au milieu de ce désordre. Et quand on lui demandait ce qu'il cherchait, il ne le savait pas lui-même. Il ne paraissait plus s'intéresser aux siens, ou il les embrassait avec des larmes aux yeux. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Madame Janin voyait bien qu'on était à la veille d'une catastrophe. Mais elle n'avait jamais pris aucune part aux affaires de son mari, elle n'y comprenait rien. Elle l'interrogea, il la repoussa brutalement. Et elle, froissée dans son orgueil, n'insista plus, mais elle tremblait sans savoir pourquoi. Les enfants ne pouvaient se douter du danger. Antoinette était trop intelligente pour ne pas avoir, comme sa mère, le pressentiment de quelque malheur. Mais elle était toute au plaisir de son amour naissant. Elle ne voulait pas penser aux choses inquiétantes. Elle se persuadait que les nuages se dissiperaient d'eux-mêmes, ou qu'il serait à temps pour les voir quand on ne pourrait plus faire autrement. Celui qui eût été le plus près de comprendre ce qui se passait dans l'âme du malheureux banquier était le petit Olivier. Il sentait que son père souffrait, et il souffrait en secret avec lui. Mais il n'osait rien dire, il ne pouvait rien, il ne savait rien. Et puis, lui aussi écartait sa pensée de ces choses tristes qui lui échappaient. Comme sa mère et sa sœur, il avait une tendance superstitieuse à croire que le malheur, qu'on ne veut pas voir venir, peut-être ne viendra pas. Les pauvres gens qui se sentent menacés font comme l'autruche. Ils se cachent la tête derrière une pierre et ils s'imaginent que le malheur ne les voit pas.